Alors, nous sommes toujours dans l'inventaire. OK, donc là, avec le cyclone, on a eu une semaine de plus. Hein, mais normalement, je laisse 15 jours pour travailler et j'apporte cet enseignement-là qui est un complément pour aller plus loin dans l'inventaire de notre vie. D'accord? Donc, il faut faire un travail sérieux qui reprend notre vie depuis le départ et regarder un petit peu tout ce qui a pu occasionner des blessures dans notre vie, tout ce qui a pu vraiment avoir une incidence sur notre vie actuelle. Le but étant de demander, dans les prochaines étapes, de demander à Dieu de nous guérir afin que notre passé ne vienne pas polluer notre présent et notre futur. Amen. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de revoir chacun son histoire, des outils que vous allez recevoir pour revoir votre histoire, mais à la lumière des Écritures. Et vous allez voir un petit peu pourquoi c'est important de faire ce constat, de regarder à notre vie, mais avec un prisme différent. Maintenant que nous sommes chrétiens, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons la vérité. Et cette vérité nous éclaire sur le comportement des êtres humains, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres. Et le fait de comprendre comment fonctionne un être humain va permettre de mieux comprendre notre histoire. Et que ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas tant ce qui nous est arrivé à nous, que l'ennemi voudrait nous faire croire que c'est notre faute, alors qu'en réalité, c'est tous les êtres humains qui sont concernés. Donc, c'est prendre du recul et de regarder un peu à notre vie, mais par rapport à l'humanité, par rapport à tout ce qui arrive sur cette terre, de façon à ne pas culpabiliser, de façon à ne pas être dans la honte, parce que ce que l'ennemi aimerait faire et nous faire croire, c'est que toi, tu es différent des autres et ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Et tu l'as bien cherché. Et de façon à nous culpabiliser, de façon à nous maintenir dans la honte, de façon à avoir une piètre estime de nous-mêmes et de ne pas rentrer dans la victoire, de ne pas rentrer dans le plein potentiel que Dieu a pour nous. Voilà un petit peu l'enjeu de ce soir. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on vient à Christ, avec ce verset-là, on se rend bien compte qu'il y a un avant et un après. Hein? Et que les choses, et ce qu'on va voir ce soir, c'est quoi les choses anciennes qui sont passées, qui sont en train de passer. Hein? Et les choses qui sont devenues nouvelles, comment on voit les choses maintenant. OK? Et pour cela, pour comprendre ça, il faut vraiment être né de nouveau et être né de l'esprit. Ce que vous allez voir ce soir, je ne pourrais pas ce soir faire un enseignement à des inconvertis. Ils ne comprendraient pas. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu, il faut être né de nouveau pour pouvoir comprendre ce soir, comprendre cet enseignement qui nous explique, et à la lumière des Écritures, qui met la lumière sur l'histoire de chacun d'entre nous. Et ça va avoir des conséquences incroyables pour l'avenir, hein, en termes de compréhension, en termes de compassion, en termes de miséricorde, en termes de pardon. Tout ça va avoir des conséquences parce qu'on va regarder notre vie différemment. Dans Éphésiens 1, 18, il est écrit ceci: C'est Dieu qui illumine les yeux de votre cœur. Il illumine les yeux, il apporte la lumière, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc dans Éphésiens, on se rend compte que Dieu illumine nos cœurs. Nos cœurs peuvent être illuminés. À l'inverse, un peu plus loin, dans le chapitre 4, verset 18, il parlera des gens qui n'ont pas encore eu cette lumière, qui ne sont pas encore venus à Dieu, et il dira: Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, vous avez deux sortes d'êtres humains. Vous avez les êtres humains qui appartiennent à Dieu et dont les yeux du cœur sont illuminés. Il y a la lumière sur leur vie Donc, on pourrait dire, il y a la vérité sur leur vie. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et à l'inverse, il y a tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et qui ont une intelligence obscurcie. Donc, ils ne connaissent pas la vérité. Et ça, ça va faire une grande différence pour la suite. Donc, ce que je vous propose, c'est de revisiter notre histoire, mais avec un nouveau narratif. Ce soir, vous allez m'entendre plusieurs fois utiliser le narratif. Et c'est quoi le narratif ? C'est notre voix intérieure. C'est notre histoire, mais comment on la voit de notre point de vue ? Et quelquefois, parce qu'on n'a jamais réfléchi à ça et qu'on est en pilote automatique, on fait les choses automatiquement, eh bien, on ne remet pas en question notre histoire. Et c'est pour ça que l'inventaire est important. L'inventaire est important parce que ça va permettre déjà de mettre des mots sur ce qui nous est arrivé, des noms sur les gens avec qui c'est arrivé, les choses que nous, on a fait. Ça va permettre de bien mettre en évidence ce qui nous est arrivé dans notre vie. Mais on va le revoir à travers le prisme des Écritures, avec la lumière des Écritures. Et ça change tout. Par exemple, tu n'es pas le fruit du hasard. Ça, c'est important. Je pourrais dire, tu n'es pas une erreur. Je pourrais dire, en fait, ce n'est pas tes parents qui ont décidé que tu sois sur cette terre. J'en avais parlé la semaine dernière, parce que moi, je suis un cas bien. Ah oui, c'est vrai, la semaine dernière. Tous les vendredis. Parce que moi, j'ai expliqué la dernière fois, c'est mieux la dernière fois, tu vois, qu'on s'est vu, et ben, que moi, j'étais vraiment, j'aurais pu être considéré vraiment comme une erreur. Hein, dans la mesure où je suis né 12 ans après ma sœur, et que normalement, il n'y avait plus de possibilité pour que je naisse. Et en fait, on pourrait dire, bah, tu as un accident alors, hein, parce que tu ne devais pas être là et tu es arrivé. Et mon père, qui ne voulait plus d'enfants, 12 ans après, vous voyez, mon père a réussi à faire la tête à ma mère pendant 9 mois. Il a fait ce qu'on appelle chez nous du boudin. Il a fait du boudin pendant 9 mois. D'accord ? Parce qu'il ne voulait plus entendre parler d'enfants. Donc, vous voyez, je ne suis pas arrivé dans le monde d'une manière « Oh, on l'a tellement attendu !» Ce n'était pas le cas. Donc, j'aurais pu dire « Je suis une erreur. » J'aurais pu dire toute ma vie « Waouh, je n'ai jamais été aimé, je n'ai jamais été désiré. » Donc, ça aurait pu m'impacter dans mon comportement. Mais en réalité, quand on regarde ça à la lumière des Écritures, eh bien, ça change tout. Parce que dans Jérémie 1,5, il est écrit « C'est toi, Seigneur, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. » Alors, ce n'est pas Jérémie. Hein. J'ai une petite erreur. Là, c'est le psaume. Je ne sais pas pourquoi. C'est le psaume 139. Je me suis trompé. « Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Vous voyez un petit peu la réalité de ce verset, hein, qui nous dit que Dieu connaissait d'avance qu'on allait venir sur cette terre. Donc, notre vie ne dépend plus de la manière dont nos parents nous ont aimés, dans la manière dont vous êtes arrivés sur cette terre, mais c'est plutôt la volonté de Dieu qu'il faut regarder derrière ça, et que Dieu voulait que vous soyez sur cette terre. Donc si vous avez pensé un instant, parce que vous étiez une erreur, parce que peut-être que vos parents vous ont né dénigré, peut-être que vous n'avez pas eu l'affection que vous auriez aimé avoir, et donc que vous en avez déduit que je ne sais pas ce que je fais sur cette terre, j'aurais jamais dû être là et tout ça, eh bien, c'est une erreur. Il faut revoir le narratif. Parce qu'au-delà des parents, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Et pourquoi ? Parce qu'il voulait que vous passiez l'éternité avec lui. Et là, c'est bien Jérémie. Dans Jérémie 1,5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Vous voyez un petit peu ? La lumière des Écritures. Regardez, qui c'est qui nous a formés dans le ventre de notre mère ? C'est Dieu. Il nous connaissait avant. C'est fou quand on lit ça. On dit, waouh, Quelle révélation! Quelle révélation! Alors, on prend cet exemple-là qui est fondamental, évidemment, mais regardez les répercussions. C'est qu'en fait, quand j'ai compris ça, moi, ça a remis complètement mon narratif. J'ai plus du tout le même narratif. Et en fait, ça a été beaucoup plus facile d'accepter l'attitude de mes parents, même si voilà, ils auraient pu ou ils auraient dû être différents et tout ça. Mais en tout cas, quelque part, je n'ai pas rejeté la faute sur eux, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Voyez un petit peu comment, à partir du narratif, la vie change. La conception de la vie, elle change. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que ce soir, je vais vous donner des outils, on va regarder sur quoi il faut travailler. Parce qu'en réalité, il faut tout revoir, une fois que vous aurez fait votre inventaire, il faut tout revoir à la lumière des Écritures. Et ça va nous aider à avoir plus de compassion pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Comme on vient de le lire tout à l'heure, hein, c'était ici, voilà. Ils ont l'intelligence obscurcie, en Éphésiens 4, 18. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont dans l'ignorance. Comment on peut en vouloir à des gens qui sont dans l'ignorance? C'est impossible. C'est pas raisonnable. Ils sont dans l'ignorance. Donc le mal qu'ils font, ils s'en rendent pas compte. Tu comprends? Mon père, s'il a boudé pendant 9 mois, il se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur l'enfant. Donc comment je peux en vouloir à mon père? Il connaît pas Dieu. Il a l'intelligence obscurcie. Et moi, merci Seigneur, c'est une grâce. Dieu m'a ouvert l'esprit, il a illuminé les yeux de mon cœur. Donc ça veut dire que nous, merci Seigneur, on est des privilégiés. On est des privilégiés. Et ça va nous aider à avoir de la miséricorde pour nos parents, avoir de la compassion pour nos parents, qui sont ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Tu comprends? Et donc tout ça, c'est un travail qui se fait en profondeur pour comprendre que finalement, toi, tu as eu la grâce, et on ne sait pas pourquoi, d'avoir été choisi par Dieu, qu'il a éliminé les yeux de ton cœur, et eux, ils n'ont pas eu ce privilège-là. Ils n'ont pas eu cette grâce-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'impact que ça a dans la relation avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec ceux qui étaient en autorité, mais qui avait l'intelligence obscurcie. Prenons un autre exemple. Ça me vient comme ça. Par exemple, Denis Morissette, il raconte souvent ce témoignage-là. Il a été humilié à l'école. Et en fait, il avait des problèmes aux yeux, et donc il voyait mal. Et le professeur l'a humilié devant toute la classe. Il l'a fait venir au tableau et il lui a collé sa tête contre le tableau pour dire, et là, tu vois bien là maintenant là? Et toute la classe a rigolé forcément et tout ça. Et lui, il a beaucoup souffert de cet handicap-là. Mais c'est pareil, il a fallu qu'il pardonne à ce professeur-là. Mais elle avait l'intelligence obscurcie. C'était pas normal de faire ça. Mais tout ça pour vous dire qu'avec un autre narratif, et c'est celui de l'Écriture, c'est pas n'importe quel narratif, c'est la vérité, on peut revoir notre vie différemment et entrer plus facilement dans le pardon, dans la miséricorde, dans la compassion. Ça va? Et donc, on revient à cette fenêtre de Johari. Commençons par revisiter l'être humain en séparant la créature de Dieu et les conséquences du péché sur lui. Ce qui va être important aussi, c'est Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre l'être humain, la créature de Dieu, et ce qu'elle fait, ou ce qu'elle a fait. Et elle ne savait pas. Et donc c'est important de comprendre quand c'est quelque chose qui est connu de nous, mais que la personne, elle est aveugle, elle ne connaît pas, elle ne sait pas. Quand vous êtes avec des inconvertis, mais qu'est-ce que vous voulez exiger d'eux? Ils ne savent pas. Vous comprenez? C'est important. Et c'est important de ne pas rentrer en conflit avec eux. J'ai en ce moment à la maison, on a ma sœur et sa belle-sœur. Bon, eh ben, ils sont inconvertis, ils ne savent pas ces vérités-là, et ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Vous voyez, quand vous êtes habitué à être dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, et que vous savez que vous devez travailler sur vous, parce que on a suffisamment à faire avec nous sans regarder aux autres. Hein. Mais quand vous êtes avec des inconvertis, vous vous dites, j'avais plus l'habitude en fait. Mais en fait, et je veux pas les descendre, hein, mais vous les écoutez, et en fait, ils se nourrissent de médisance, ils se nourrissent de critiques. Et c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Eux, ils n'ont pas de problème. Mais vous êtes 5 minutes avec ces gens-là, ça va. Mais vous êtes 3-4 heures avec ces gens-là et vous dites, bon, ben, Seigneur, c'est une belle expérience, c'est un beau test, parce qu'il va falloir montrer la patience, il va falloir montrer l'amour, il va falloir montrer la compassion. Enfin, tout ça, ce que je vous dis, ça devient réel tout d'un coup. On n'est pas en train de faire un enseignement théorique, là. Là, on est dans la réalité et il ne faut pas qu'on s'énerve. Parce qu'ils sont différents. Mais je ne peux pas... Est-ce qu'ils vont comprendre si je leur explique tout ce que je vous explique là? Ben non, ils vont me faire plaisir. Ils vont dire oui, c'est bien. Mais ils ne vont rien comprendre. Vous comprenez? Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est avec des créatures de Dieu. Et même entre nous, hein, là je parle d'un converti, mais soyons plus honnêtes, encore plus profond. Même entre nous. Chacun est à un niveau spirituel. Chacun est dans sa recherche spirituelle. Chacun a plus ou moins envie de travailler sur soi. Hein? Et donc, ben même dans l'église, vous allez avoir des gens et vous allez dire, « T'es, lui, ça fait combien de temps qu'il est converti ? Encore comme ci, encore comme ça. » Et ouais. Et donc, on a besoin de comprendre qu'il y a le pécheur, il y a le péché. Mais le péché n'est pas l'identité du pécheur. Ça va, ça? D'accord. Et nous, on a besoin de regarder au pécheur. Parce que si Dieu avait regardé à notre péché, ben, il n'y en a aucun qui serait là ce soir. Personne ne serait là ce soir. Et c'est parce que Dieu a regardé au pécheur et pas au péché que nous sommes là ce soir. Il a fait grâce. Et nous, on est appelés à faire grâce. Tout ça, ça nous entraîne à ne pas juger. Ça nous entraîne à ne pas se croire meilleur que les autres et ça nous entraîne à faire la paix avec les autres. Ça va ? Comprendre le fonctionnement de l'être humain pour devenir plus fort face au péché. C'est important de comprendre tout ce que je vous dis là. Pourquoi ? Ben pour travailler sur nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça va faire de travailler sur nous-mêmes, de comprendre nos faiblesses, de comprendre là où le péché nous a attaqués, là où le péché a réussi à faire des dégâts dans notre vie? Mais ça va nous aider à être plus forts face au péché. Parce qu'on va désarmer l'ennemi au fur et à mesure qu'on va être restauré, qu'on va être guéri et qu'on ne va plus lui donner de prise sur nous. En termes de culpabilité, on le verra tout à l'heure, en termes de honte, on verra ça en détail. Tout ça, là, on le met à jour et on dit, mais c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. C'est notre passé. Et c'est le narratif qui était vrai, mais parce qu'on ne connaissait pas la réalité. Maintenant, on connaît. Ceux qui se sont moqués de nous, quand vous avez été ridiculisés, quand vous avez été humiliés, quand vous avez subi toutes sortes de choses. Mais c'est le monde d'aujourd'hui avec des pécheurs qui, malheureusement, pêchent. Mais qui n'ont pas la grâce de Dieu sur eux, qui ne connaissent pas le Seigneur. Une personne qui se connaît, elle est consciente de ses forces, ainsi que ses faiblesses, de ses capacités et ses limites, ses possibilités et ses failles personnelles. Elle sait qu'elle n'est pas indestructible. Elle sait qu'il faut qu'elle fasse attention dans certains domaines, parce que l'ennemi peut les utiliser. Donc, il sera plus fort face au péché. Et c'est là où elle s'appuiera encore plus sur Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est quand on se croit fort qu'on risque de tomber. Mais à l'inverse, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Pourquoi ? Parce que je m'appuie sur Dieu. Certaines personnes, cette personne, elle possède une vision réaliste d'elle-même. Elle possède en fait un concept de soi qui est sain et ajusté. Elle reconnaît ses faiblesses. Mais ce n'est pas un problème. Au contraire, quand tu reconnais tes faiblesses, c'est là que tu mets ça dans les mains de Dieu. Et c'est là où l'ennemi n'a pas de prise. Mais à l'inverse, si tu n'as pas un bon concept de toi, si tu es fragile dans l'estime de toi, eh ben, tu n'accepteras pas de reconnaître tes failles. Parce que ça, tu auras l'impression que ça te diminue. Et c'est là que tu te mets en danger. Si tu ne reconnais pas tes failles, alors tu crois que tu es fort et l'ennemi va t'utiliser et va utiliser cette faiblesse-là à ton insu. Découvrir nos zones d'ombre, nos failles, nos faiblesses, nos souffrances, nos douleurs, demander la guérison au Seigneur, apprendre à nous accepter et à nous pardonner, en fait, c'est faire la paix avec notre humanité, c'est le défi de la restauration. Faire la paix avec qui nous sommes, afin d'être bien dans sa peau. Beaucoup de gens ont du mal à s'aimer, beaucoup de gens ont du mal à se pardonner. Beaucoup de gens sont dans les griffes de l'ennemi, malgré qu'ils soient au Seigneur, parce que leur narratif n'a pas été remis en question, parce qu'ils ne se sont pas remis en question. Et beaucoup pensent qu'il y a une grosse partie, c'est de leur faute dans ce qui leur est arrivé. Or, avec tout ce qu'on voit là, ben, on voit bien que non, c'est l'être humain, c'est comme ça. On ne peut rien faire là-dessus. Mais on n'a pas à rester dans la culpabilité et dans la honte de ce que les autres nous ont fait. Ça va, ça? C'était des pécheurs qui péchaient et qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, commençons par revisiter, par exemple, notre histoire familiale. Regardez un petit peu les conséquences que ça peut avoir. Parce que là, on parle de tout le monde. Ce n'est pas une personne particulière. Vous allez peut-être vous retrouver dedans. Mais pensez que tout ça, c'est ce que le péché fait dans la vie de tous les jours et notamment dans les familles. Chaque enfant a besoin de recevoir de l'amour afin d'évoluer dans un contexte épanouissant et de devenir des adultes en bonne santé. Ça, c'est la base. Aimer et être aimé. Tout le monde a besoin de ça. Mais on va voir que la réalité est rarement celle-là. Pour ça, on va développer les 4 A de l'amour nécessaires à une saine croissance. D'abord, l'enfant a besoin d'affection. C'est évident. C'est le besoin fondamental de recevoir l'amour et la tendresse nécessaires à une saine croissance. Sauf que vous avez peut-être eu des parents, peut-être que vous avez eu la chance d'avoir des parents aimants et tendres, hein, mais beaucoup de gens n'ont pas connu ni l'amour ni la tendresse. Ouais. Si je prends mon cas, par exemple, chez nous, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Mais surtout pas la tendresse. Oui. La tendresse, c'est-à-dire la capacité de prendre l'enfant, de lui faire des câlins et de lui dire des mots doux, tout ça, c'était impensable chez moi. Conséquence, merci pour le gène héréditaire. Quand mon premier enfant est arrivé, j'étais incapable d'exprimer la tendresse. Incapable. C'était handicapant. J'avais pas reçu de tendresse. Et donc, j'arrivais pas à exprimer la tendresse. Mais quel handicap. Et heureusement que ça s'est amélioré petit à petit. Mais ben, moi, j'en ai pas reçu et j'ai pas su la transmettre. Et donc, mes enfants, enfin, surtout le premier, au départ, eh ben, il n'a pas reçu la tendresse qu'il aurait dû recevoir. Et donc, si l'enfant ne se sent pas aimé, si l'enfant ne reçoit pas cette tendresse-là, eh bien, ça ne le construit pas. C'est-à-dire qu'il va avoir une mauvaise estime de soi, il ne va pas se sentir aimé, donc il ne va pas avoir une belle estime de lui-même. Il va avoir des relations à long terme qui vont être difficiles en termes d'intimité, en termes de pouvoir se livrer à l'autre, de se pouvoir s'abandonner, de pouvoir se lâcher. Ça va être très compliqué. Et donc, il va aussi avoir une tendance à la dépendance affective, c'est-à-dire qu'il va rechercher l'amour à tout prix. Ensuite, le besoin d'attention, le besoin intime et personnel d'avoir la présence significative de quelqu'un qui s'intéresse à nous. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui prend du temps pour l'enfant. Et là encore, on va retrouver des problèmes chez les gens, comme par exemple le travail, par exemple. Vous voyez, on appelle ça père absent. C'est-à-dire, le père, il est là, il n'est pas divorcé, mais en fait, il est tout le temps au travail. Et pour lui, il ne s'en rend pas compte, parce que c'est justifié. Et il faut bien faire bouillir la marmite, il faut bien ramener les sous. Mais on est dans un excès. Il n'y a pas de temps pour être avec l'enfant, mais parce que on n'est pas à l'aise pour jouer avec l'enfant, pour jouer au petit train, jouer au petit. Alors, si c'est une fille, jouer à la poupée, ou jouer, je ne sais pas, sans rentrer dans des clichés où je vais me faire tuer. Mais je veux dire que ce n'est pas évident. Et le gars, ça se trouve, il est plus à l'aise au travail. Bon, je vous dis ça parce que ça a été mon cas dans mon premier mariage. J'étais tout le temps dans le travail. Je me réfugiais dans le travail. Mais en fait, je ne le voyais pas. Mais c'était une fuite. C'est une fuite parce que et je justifiais ça par les choses qu'il fallait faire pour la maison, mais en réalité, je laissais la mère s'occuper des enfants. Ouais. Et donc, il n'y avait pas cette attention, il n'y avait pas ce besoin intime et personnel, et ben c'était compliqué pour moi. Donc, je préférais me réfugier dans le travail. Et beaucoup d'enfants souffrent de l'absence. Du père, hein, parce qu'il travaille. Et dans ce monde-là où on est, ben c'est, je trouve que c'est de pire en pire. Retrouver du temps pour les enfants. En conséquence, ben à nouveau, mauvaise estime de soi. Il faut exister à tout prix, donc l'enfant va faire un petit peu tout et n'importe quoi pour montrer qu'il existe. D'accord? Et ça va avoir comme conséquence plus tard, vous voyez, ce type de défaut, ramener à soi les conversations. Je ne sais pas si vous avez eu ce type de personne autour de vous. Et en fait, dès que vous parlez, même si vous parlez de vous, la personne ramène à elle la conversation. Hein? Ah oui, ah ben attends, tu sais pour moi comment ça s'est passé? Et en fait, la personne n'a même pas eu le temps de finir son histoire, même pas eu le temps de finir sa phrase, que l'autre a déjà piqué son tour. Ouais. Et en fait, c'est parce que elle a ce besoin d'attention et c'est pas conscient. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de dire, ah, tu sais, moi j'ai besoin d'attention, donc excuse-moi, mais si je te coupe la parole. Mais non, on n'est pas là. On est juste que c'est des habitudes, des mauvaises habitudes qui ont été prises, et ça prend sa source parce qu'il y a des besoins, des carences en quelque sorte, hein, qui n'ont pas été satisfaites. Le besoin d'admiration, le besoin d'éveiller chez les autres un sentiment de fierté et de satisfaction à l'égard de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Hein? C'est l'enfant qui rentre et puis qui interpelle son père, sa mère, pour lui montrer ce qu'il a fait à l'école, ce qu'il a fait de bien, tout ça. Et en fait, il n'y a jamais le temps de regarder. Il n'y a pas le temps de regarder. Au pire, on peut être dans un pattern de perfectionnement, ça aussi, on verra. Et là, dans ce cas-là, eh ben, ce n'est pas assez bien. C'est-à-dire que vous ramenez un 14, par exemple, et la réflexion que la maman va faire, c'est, ah ben, tu aurais pu faire mieux. Ben oui, on peut toujours faire mieux. Hein? Mais au lieu de montrer à l'enfant que ce qu'il a fait, c'est très bien, eh ben, d'entrée de jeu, c'est, ah ben, tu aurais pu faire mieux. Hein? Allez, je t'avais voulu. Et en fait, l'enfant va vivre avec cette idée-là qu'il faut toujours faire mieux, toujours faire mieux, toujours faire mieux. Et là, vous allez voir, avec une éducation comme ça, ben vous allez voir que le syndrome de la perfection va se traduire de génération en génération. Et c'est compliqué, parce que la personne n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait. Parce que c'est jamais assez bien. Le standard est toujours, il est là. Et puis si jamais un jour tu arrives à le toucher, mais ce sera toujours pas assez bien, parce qu'on peut encore faire mieux. Donc la perfection, c'est une illusion. Mais quand la personne est dans la perfection, elle ne peut pas être heureuse. Hein, elle va se tuer à la tâche, elle va se fatiguer, parce qu'il faut montrer, hein, il y a ce besoin-là, ce besoin d'admiration, regarde un peu. Et en fait, c'est jamais. Donc ça va entraîner toujours la mauvaise estime de soi. Ça va attirer dans les relations des conflits parce qu'on attire toujours l'attention des autres sur ce que l'on fait. Et puis, ça a aussi un autre défaut, c'est qu'on se met continuellement en avant. elle fait toujours bien, c'est toujours elle qui fait, regarde ce que j'ai fait. Et la personne, elle est malheureuse, mais elle ne s'en rend pas compte, en fait, hein. Mais ça fatigue les autres. Parce que les autres, vous voyez, quand on est ado et tout ça, on va dire, ouais, on sait pour toi, ouais, on sait, on connaît, non, non, mais c'est bon, on connaît. Les ados sont cash. Non, non, c'est bon. Bon, nous, adultes, on est un petit peu plus polis. Hein. Mais en fait, ça nous énerve. Si on dit, ouais, c'est bon, on sait, ok, d'accord. Enfin, le besoin d'acceptation, le besoin profond d'être inclus et reconnu comme nous sommes, malgré ce que nous sommes. Là aussi, c'est ce besoin de faire partie de la bande, ce besoin de faire partie d'un ensemble, d'être reconnu et d'être accepté. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être accepté? Quand, par exemple, quelqu'un souffre de ça, il s'est jamais senti accepté comme il était, vous savez ce que ça donne, ça? Ça donne qu'on arrive dans un endroit, on arrive avec, et on veut se faire accepter, on est prêt à faire n'importe quoi. Vous allez voir quand des ados, un jeune qui va dire, oh là 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 là, ces fréquentations-là, c'est pas terrible, il risque de mal tourner. Ah oui, parce que s'il a ce pattern-là, eh ben, il va vouloir, pour se faire accepter, mais il est prêt à faire n'importe quoi. Principal, c'est d'être accepté. Mauvaise estime de soi, il en fait trop. C'est juste trop. C'est juste que t'as pas besoin de faire tout ça pour être accepté. Prêt à faire n'importe quoi pour être accepté. Donc, vous voyez, on s'en rend pas compte, mais c'est important de faire l'inventaire, c'est important d'analyser comment on fonctionne. Et comme je vous avais dit la dernière fois, ben peut-être demander au mari ou à la femme ou aux enfants ou aux amis des choses comme ça, parce que quand on fait ça, on le voit pas. Les autres le voient, mais nous, on le voit pas. Et si on veut être guéri de ça, ben, il faut le mettre à jour. Parce qu'en réalité, et on le verra tout à l'heure, quand vous êtes en Christ, tout ça, vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. L'acceptation, vous l'avez reçu. L'admiration, Dieu nous admire. Dans Sophonie, il dit qu'il prend plaisir à nous regarder. Hein? Donc, l'acceptation, je reviens un petit peu en arrière, l'admiration, l'attention et le besoin d'affection, mais tout ça, en Christ, nous l'avons. Et ce n'est plus la peine d'aller le chercher chez un être humain. Pourquoi? On va le voir encore tout à l'heure. Mais on va aller chercher chez un être humain à combler une carence que lui-même, la personne qu'on va voir, elle a besoin. Donne-moi ce que tu as besoin. Ça pourrait donner ça un peu. Et donne-moi ce que tu n'as pas. Ça va être compliqué. Donc, ce n'est pas auprès d'un être humain qu'on va être pleinement satisfait, c'est auprès de Christ. C'est auprès de Christ, dans une communion avec Christ, qu'on va recevoir ce qu'on n'a pas reçu quand on était petit. Mais pas auprès d'un être humain. Auprès d'un être humain, ça va être quelque chose d'éphémère. Ça va être quelque chose, un moment. Vous voyez, un moment. Mais ça ne tient pas. C'est gentil, mais ça ne soigne pas. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut aller dans les profondeurs de nos entrailles, dans les failles profondes. Il n'y a que lui qui peut aller guérir. Un être humain n'a pas ce pouvoir-là. Mais ça fait du bien quand même. Hein, si un être humain te dit je t'aime, ça va faire du bien. Mais est-ce que tu vas te sentir aimé pour autant? Pas sûr. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là. Et donc un être humain, faudrait, même s'il disait tous les 5 minutes, hey, je t'aime, hey, je t'aime, hey, je t'aime, hey, je t'aime, mais d'abord il va se fatiguer, hein? Et puis ça ne va pas changer grand-chose. C'est ce qu'on appelle les citernes crevassées. Et ça ne retient pas. Ça passe, ça fait du bien. Hein? Vous faites quelque chose de bien, la personne vient vous dire, waouh, génial ce que tu as fait, et tout ça. Ouais, ça fait du bien sur le coup, et puis ça passe. À cause du péché qui a déformé les êtres humains de génération en génération, et aussi de la réalité de la vie qui est difficile, injuste, douloureuse, aucun de nous n'a pu bénéficier d'une croissance parfaite. Mais au contraire, notre parcours a généré des carences des souffrances, des dysfonctionnements, et ça a créé en nous beaucoup d'attentes envers nos proches. Parce que n'oubliez pas, c'est qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Donc, si on n'a pas le Seigneur, nous avons les êtres humains. Des êtres humains imparfaits. Et donc, on va se retrouver, comme on n'a que des êtres humains, ben inconsciemment, on va se retrouver avec des attentes. Mais ce sont des attentes irréalistes. Alors, je ne dis pas que par le fruit de l'esprit, on va donner le meilleur de nous-mêmes à l'autre. D'accord ? Ça, c'est important. Hein ? Mais la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on met des attentes sur les êtres humains qui ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de satisfaire. Les attentes, c'est la recherche, conscient ou inconscient, de la satisfaction de nos besoins, que nous espérons être comblés par un autre être humain et qui, malheureusement, nous entraîne bien souvent dans des frustrations, des déceptions, et ça ouvre la porte à des blessures et de l'amertume. Ça, je pourrais dire, c'est la description de la plupart des couples. Des familles. Mais ça, tu le ressens bien dans les couples. Oui, ou dans les familles aussi. Mais là où tu le ressens bien, par rapport à, tu vois, dans la plupart des mariages, si tu veux, les gens n'ont pas reçu d'instruction, les instructions du mariage, tu vois. Et donc, ils se font un film. Et ils pensent vraiment qu'ils ont trouvé la perle. Ils ont vraiment trouvé la personne qui va répondre à tous les besoins. Oh, j'ai rencontré la personne incroyable, je ne savais même pas qu'elle existait. Et elle n'a pas de défaut. Mais ça, c'est la première phase. Tu vois, les jeunes ne savent pas. Donc, ils rentrent là-dedans, c'est les fiançailles, c'est le coup de foudre, ce qu'on appelle Eros. Tu vois, oh là 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 là, merci Seigneur, oh là là. Et puis après, c'est quelques temps après, c'est « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» Parce qu'il y a la phase descendante. Et la phase descendante, c'est ce qu'on appelle la déception. Parce que tu le voyais avec des yeux, les yeux de l'amour, les yeux des attentes. Et tu étais persuadé, parce que c'est vrai que pendant Eros, il faut être honnête, pendant Eros, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'autre ? Le bouquet de fleurs, les bisous, la tendresse. Même si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Là, tu vas trouver comment faire. Enfin, il y a la totale, quoi. Hein? Mais c'est le temps d'Eros. Hein? Ça ne dure pas toute la vie, malheureusement. Il y a un moment où ça descend. Et c'est les déceptions. Et les déceptions, c'est quoi ? Eh bien, c'est que là, je croyais que, et ce n'est pas là. Et donc, ça ne remplit pas le contrat. L'autre ne remplit pas le contrat. Et là, tu commences à te dire, « Mais Seigneur, mais je me suis trompé. C'est pas le bon. » En fait, le bon, il n'existe pas. C'est un mirage. Il n'y a pas de bon. Ni de mauvais. Il y a juste des êtres humains imparfaits. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que c'est pour nous, c'est une chance de connaître ça. Parce que nous, on sait, et c'est ça la corde à trois fils, hein, c'est que y a moi, mon conjoint, et puis Dieu. Et quand ça foire avec mon conjoint, mais j'ai Dieu. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Parce que Dieu est parfait. Et donc, quand ça ne va pas avec mon conjoint, heureusement, j'ai Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh ben, la corde, elle est à deux fils et elle casse.
Et même quand ça va, hein, la corde est à trois fils, on a une connexion avec Dieu.
Bien sûr.
Et moi, je remercie le Seigneur parce que je trouve que on est plus fort tous les deux qu'au début.
Oui, on est comme le bon vin. Il vieillit bien. Donc, pour cela, il faut aussi qu'à la lumière des Écritures, il faut revoir nos attentes à la lumière des Écritures. Parce que sinon, si on ne regarde pas nos attentes à la lumière des Écritures, on va être déçu. C'est obligé. On va être déçu et ça nous met en situation de fragilité. On ne sera jamais fort si on n'a pas compris ce que je viens de vous dire. L'être humain compte sur son entourage pour combler les manques sans réaliser que tous ces gens qui l'entourent sont eux aussi en recherche de réponses à leurs besoins. Ils sont, comme tous les êtres humains, des êtres imparfaits, carencés affectivement et blessé. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Tous les gens, et moi qui le dis, je m'inclus dedans. On est tous des gens imparfaits, carencés affectivement et blessés. Mais si vous comprenez ça, c'est important de comprendre ça. Pourquoi ? Ben parce que forcément, si vous développez cette façon de voir la vie, ben vous ne pouvez être que dans la compassion et la miséricorde. Votre niveau d'exigence avec les êtres humains, il va forcément baisser. Et par contre, votre niveau d'exigence avec Dieu, il va augmenter. Allez-y, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre son joug. Il est doux et léger. Et il est parfait. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas tant mettre la pression sur les êtres humains. Il faut leur lâcher la grappe. Il faut lâcher prise. Et par contre, il faut aller chercher en Jésus sa guérison. Il faut aller chercher en Jésus, là où il y a eu des carences affectives, Dieu est capable de combler nos carences affectives.
Amen.
Revisitons maintenant nos blessures à la lumière des évangiles. Les 5 grandes blessures de la vie, vous devez commencer à les connaître parce que je les raconte souvent, hein, c'est facile, c'est on a tous été trahis. Tous été trahis. Hein. On a tous connu la trahison, on a tous connu le rejet, l'abandon, l'humiliation et pas beaucoup l'injustice. Je crois que la justice, c'est le pire. Et donc, ça, c'est les grandes blessures de la vie. Et plus ou moins, on peut se retrouver dans ces blessures-là. Certains en ont reçu plus que d'autres. Ces blessures interviennent tout au long de notre vie. Mais plus particulièrement, ça commence dès notre enfance. Et elles sont causées par les gens en qui nous avions mis naturellement notre confiance. C'est pour ça que ça fait mal. Que ce soit nos parents, la famille proche, des professeurs, des amis, des gens en autorité, etc. Des gens qui, si on n'est pas à la lumière des Écritures, eh ben on aurait pu dire, mais ce n'est pas normal. Ils auraient dû faire ça. Ils auraient dû... On a tous notre conception, on a tous notre logique. Hein? Pourquoi ? Pourquoi c'est arrivé ça ? Pourquoi ? Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Quand vous regardez tout ça à la lumière des Écritures et à la puissance du péché, ben logiquement, vous ne vous posez plus la question « Pourquoi ?» Moi, si Irlande me dit « Mais ce n'est pas normal, ça. » J'ai dit « Mais chérie, pourquoi ce n'est pas normal ? » C'est le péché. Le monde ne sait pas. Quand vous voyez un viol à la télé, quand vous voyez tout ce qui se passe dernièrement, ben, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne comprennent pas. Ils disent « Oh, je le connaissais, ce gars-là. Regardez celui qui est sorti d'un jeu vidéo et puis qui a tué la gamine. » Et les gens le connaissaient, le jeune. T'es pas si méchant que ça. Bon, une petite colère de temps en temps. Mais là, le gars, à partir d'un smartphone qu'il veut piquer, il va tuer la gamine. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? « Oh, mais je comprends pas, je le connaissais, il n'était pas si méchant que ça, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Ouais. Mais nous, chrétiens, on n'a plus à se poser ce genre de questions. Quand vous connaissez la fenêtre de Johari, et quand vous connaissez la puissance du péché, mais vous avez la réponse. Le péché a atteint chaque personne, et il y a des zones d'ombre. Quand vous regardez la fenêtre de Johari, vous avez le carreau. Hein? Il y a deux carreaux. Il y en a un où la personne connaît ses zones d'ombre. Et là, on peut parler de pulsion. On peut parler de perversité. On peut parler de le gars, il a été atteint dans des domaines qu'on trouve horribles. La pédophilie, le viol. Comment une personne peut prendre du plaisir à violer un enfant de 2-3 ans ? Expliquez-moi, comment c'est possible ? Il faut vraiment qu'il y ait un sacré problème. Hein? Mais ça, c'est le péché qui fait ça, qui dérègle. Le péché, c'est les dérèglements. Donc, on a une case où le gars, il connaît ses pulsions, il connaît ses pensées, et nous, on ne le sait pas. Mais ça doit être amené au Seigneur. Parce que sinon, vous restez dans la honte, vous restez dans la culpabilité, et vous ne pouvez pas être guéri. Et pourtant, ça existe. Et ça existe aussi au milieu de nous. On ne parle pas de pornographie, par exemple. Mais la pornographie, si vous prenez les statistiques, c'est 7 personnes sur 10. 7 personnes sur 10, enfin, pour les hommes, pour les femmes, c'est un peu moins, mais ça augmente. Et 7 personnes qui sont chez eux, qui sont chrétiens, ils aiment Dieu, ils aiment Dieu, mais ils regardent des choses qu'ils ne devraient pas regarder. Et c'est en cachette. Et si ce n'est pas amené à la lumière, ça, si ce n'est pas soigné, ben, tu peux passer toute ta vie avec ça. Il y a plein de choses comme ça. Donc, ces blessures nous marquent émotionnellement pour la vie et elles sont à jamais inscrites sur les tablettes de notre cœur. Toutes ces blessures qu'on a connues et étant petit vont avoir des conséquences sur notre comportement. Nos blessures additionnées à nos carences affectives, ça va conditionner nos comportements dans la vie. Des comportements de protection, des comportements de défense, des comportements d'isolement parfois, mais aussi des comportements d'agressivité. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui est agressif et qui pète une coche pour rien, ben vous vous dites, waouh, c'est chaud, sa vie a dû être compliquée. Hein? On fait la différence entre le pécheur et ce que le péché a fait dans sa vie. Non, ce n'est pas pour l'excuser, hein, mais c'est pour comprendre le fonctionnement des êtres humains. Pour d'autres, ça va avoir créé des tocs. Les tocs, c'est les troubles du comportement obsessionnel. Hein, c'est des gens qui se retrouvent à faire les mêmes choses tout le temps. C'est une obsession et c'est un trouble. Hein, mais ça vient répondre à un besoin et, et c'est un toc qui vient compenser un petit peu cette carence. Des relations toxiques. Ça va créer des relations toxiques. Ça va créer des perversités. Ça va créer des complications psychiatriques. Bipolarité, schizophrénie. La perversité narcissique, tout ça, ça va être créé à partir des blessures qui ne sont pas soignées et qu'on additionne avec des carences affectives. Les blessures plus les carences affectives qu'on reçoit dès qu'on est petit va avoir des conséquences sur nos comportements, d'accord ? Et sur tout ce qu'on peut rencontrer chez les êtres humains. Ouais. Et des trucs bizarres. Hein, par exemple, là je ne l'ai pas mis, j'avais plus de place. Mais par exemple, les interprétations délirantes. Ça, c'est intéressant d'étudier ça. Les interprétations délirantes. Alors, si vous ne connaissez pas, vous écoutez une histoire avec deux personnes. Et les deux personnes ont des versions complètement différentes pour le même fait. Donc, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, il y en a un qui ment. C'est obligé. Il y a un menteur. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être un dysfonctionnement de la personne et ce dysfonctionnement, ce sont des interprétations délirantes. C'est-à-dire qu'il voit la même chose que vous, mais il l'interprète d'une façon différente. Et là, quand vous avez en entretien deux personnes comme ça, vous dites, waouh, c'est sérieux quand même. Ils sont fous. Non, c'est simplement qu'il y a un dysfonctionnement. Ça relève de la psychiatrie. Alors, pas forcément une grande psychiatrie, hein, mais c'est un problème parce que, pour elle, son interprétation, on appelle ça une interprétation délirante, parce que son interprétation n'est pas réaliste. Elle est pas, mais elle ne ment pas pour elle, parce qu'elle est persuadée de ce qu'elle dit. Elle est persuadée que ça s'est passé comme ça. Elle est persuadée que la personne a agi comme ça et pour ces raisons-là. Oui. Donc c'est très vaste en fait. C'est très très vaste. C'est passionnant, mais c'est très vaste. Tous ces dysfonctionnements vont venir compliquer évidemment les relations humaines. Vous comprenez qu'à partir de là, il ne faut pas qu'on soit étonné que les relations humaines soient aussi compliquées que ça. C'est normal. C'est normal. On ne doit plus tomber des nues parce qu'il y a des difficultés dans les couples, il y a des difficultés dans les familles. Il y a des difficultés partout, au travail, dans la relation à l'autre, mais c'est normal. Il faut juste se restaurer. Il faut juste se soigner. Et puis, avoir de la compassion pour les autres, parce que tout le monde ne fera pas ce travail-là. Et vous avez des gens, ben, soit ils sont chrétiens ou pas chrétiens, c'est même pas le critère, parce que vous avez des chrétiens qui ne voudront pas se restaurer. eh bien, vous allez avoir des gens qui seront dans des relations toxiques. Vous pouvez avoir, j'en ai un qui me vient à l'esprit là, vous allez avoir par exemple une relation fusionnelle. Par exemple, mère-fille. C'est toxique. Hein? Parce que, en fait, il y a sans doute à la base des carences affectives et ça a été mis, la charge, les attentes, les fameuses attentes, la charge a été mise sur l'enfant. Eh bien, petit à petit, il y a une relation qui s'est faite et vous avez une relation fusionnelle et avec celle qui est en autorité qui va vouloir contrôler la vie de l'autre en permanence. Il ne faut pas que la vie de l'autre lui échappe parce que ça fait partie de son environnement et elle est malade. Elle est malade et elle veut garder une emprise sur la personne. Bon, on pourrait passer notre soirée à étudier des cas et ça expliquerait en grande partie la difficulté de nos interrelations. À la fois, on a besoin de nos interrelations et à la fois, c'est là où on peut être le plus blessé. Bienvenue dans le monde des adultes. Compliqué, hein? Donc, résultat des courses, on ne peut pas travailler sur les autres. Ils ont des dysfonctionnements et c'est à eux de vouloir les traiter ou pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à se soigner s'il ne veut pas aller voir le médecin. Et des fois, même, il va voir le médecin, il a le médicament, mais s'il laisse le médicament sur la table, ben, il peut le regarder autant de fois qu'il veut, ça ne va rien changer. Donc, le résultat des courses, on ne peut changer que sur soi. Et après, connaître nous-mêmes, être soignés, et le cran supérieur où vraiment on a besoin de l'amour de Dieu, ben c'est d'aimer les gens autour de nous comme ils sont. Parce qu'on n'a pas le choix. Si vous avez une autre solution, faut, théologiquement, il faut me la dire. Mais il n'y en a pas d'autre. Je me soigne, je me guéris, et c'est moi qui fais les efforts. Eh oui, bienvenue dans la vie de Dieu. Et c'est toi qui fais les efforts. Tout le temps, oui, tout le temps. Parce que tu ne peux pas faire pour les autres. Tu ne peux pas exiger. Tu ne peux pas demander. Tu ne peux pas. Alors, dans un couple qui fonctionne bien, on fait ce qu'on appelle le cœur à cœur. Le cœur à cœur, c'est « Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois encore mieux pour toi ?» Et après, il y a la question qui vient dans l'autre sens. « Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour être encore mieux avec toi ?» Ouais, mais vous voyez, là, vous avez affaire à des gens qui ont compris les difficultés de la relation et que je vais m'adapter aux besoins de l'autre. Et c'est ça la transformation. Et dans le couple, ben, je vais m'adapter à toi, chérie. Mais c'est dans les deux sens. Parce que sinon, on tombe dans l'abus. Ça va? Vous êtes toujours là? Ben, c'est bien. Donc, au fil du temps, les conséquences de nos blessures et de nos carences, écoutez bien, vont forger notre identité. On va se retrouver avec un cortège d'étiquettes et rendre conflictuelles nos relations les uns les autres. Au fil du temps, ben, les gens vont se retrouver avec des étiquettes. Vous voyez quelqu'un, vous lui avez mis une étiquette. Et quelqu'un, hop, on a mis une étiquette. Tout le monde a une étiquette. J'ai sans doute une étiquette, je ne la connais pas, mais j'ai sans doute une étiquette. Tout le monde a des étiquettes. En fonction du comportement que vous avez, les gens vont vous mettre une étiquette. Vous allez parler d'une sœur à l'église et les gens vont dire oh, on ne m'en parle pas. Je connais. Ouais, non, je sais ce que tu vas me dire. Oh là, oh, c'est compliqué. Elle a une étiquette. C'est nos comportements qui vont finir par nous étiqueter. Tant qu'un être humain, premièrement, n'est pas né de nouveau en venant à Christ, tant qu'il est encore sur le poids du péché, il reste un handicapé spirituel. Son cœur est malade. Il reste prisonnier, il manque un reste, des conséquences du péché sur sa vie. Ça, il faut que vous le compreniez. Tout cela, si on a tous donné notre cœur à Dieu, nous sommes des privilégiés. Amen. Rien que par la connaissance des Écritures. Rien que par la connaissance que nous livrent les Écritures sur l'être humain, sur comment fonctionne l'être humain. Dieu veut qu'on soit heureux. C'est ça, le premier serment de la montagne, c'est heureux. Dieu veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on se guérisse soi-même et accepter les autres comme ils sont. Et on acceptera les autres comme ils sont parce que Dieu nous donne son esprit. Il nous donne le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit nous permet d'accepter les autres comme ils sont. Mais la base, c'est d'être guéri nous-mêmes. C'est d'avoir assis notre identité sur Christ, d'avoir un bon fondement, de façon à ne pas souffrir de carences, de ne pas être dans les attentes, de ne pas être dans les frustrations avec les uns les autres, d'être bien avec soi-même, d'avoir fait la paix avec soi-même, d'être bien avec Dieu et d'accepter les autres comme ils sont. Et là, vous pouvez espérer être heureux sur cette terre. Mais si vous avez une autre recette, venez me voir à la fin parce que je suis curieux de l'entendre. Mais à mon avis, vous ne trouverez pas. Il n'y en a pas. Et les blessures conditionnent nos comportements. Je vous ai mis quelques exemples pour vous aider à détecter les blessures. Quelques exemples. Par exemple, quand vous avez un comportement contrôlant, la plupart du temps, c'est que vous avez subi la trahison dans votre vie. Et donc, vous ne voulez plus être trahi. Donc, vous avez une tendance à contrôler votre environnement. Quand vous avez un comportement fuyant, c'est que vous avez connu le rejet dans votre vie. Quand vous avez un comportement de dépendant envers un autre être humain, c'est que vous avez connu l'abandon dans votre vie. Quand vous avez un comportement masochiste où vous détruisez tout ce que vous touchez, ben vous avez été humilié dans votre vie. Et vous êtes dangereux pour vous-même et pour les autres. Et quand vous avez un comportement rigide, c'est que vous avez connu l'injustice dans votre vie. Voilà quelques exemples qui nous montrent les relations, le rapport qu'il y a entre la blessure qu'on a reçue et notre comportement dans la vie. Nos comportements dans la vie trahissent les blessures qu'on a reçues. Revisiter, maintenant on va finir là sur les émotions, on va finir par revisiter l'impact de nos émotions sur notre vie, mais à la lumière des Écritures. Hein, et principalement ce que j'appelle les trois vilaines sœurs. Les trois vilaines sœurs, c'est des copines, ils s'entendent bien, mais ils sont très méchantes. Et ils nous attaquent tout le temps. Et ils nous en veulent. Je ne sais pas pourquoi, on n'aura rien fait, mais ils nous en veulent. C'est les trois vilaines sœurs qui sont toujours en train de tourner autour de nous et qui veulent nous faire du mal. Alors les trois vilaines sœurs, c'est la culpabilité, c'est la honte et c'est la peur. On va finir là-dessus. Donc, d'abord, la peur, ça, c'est un sentiment intérieur d'appréhension, d'anxiété, d'inquiétude, d'effroi ou de terreur accompagné de réactions et de symptômes physiques. C'est-à-dire que ça se traduit physiquement. Vous allez avoir des sueurs, vous allez avoir des tremblements, vous allez tomber dans les pommes, vous vous sentez faible. En fait, ça agit physiquement. D'accord ? Et à la base, eh ben c'est un sentiment intérieur, mais il est comme un bourreau, hein, parce qu'il nous crée des choses à partir de notre interprétation. Donc, c'est important d'identifier nos peurs, parce que la plupart du temps, nous devons nous convaincre nous-mêmes de l'irrationalité de nos peurs. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. En tout cas, pas en termes d'intensité, pas exactement comme on le voit. Mais le problème, c'est que la peur peut nous tenir et être convaincu de ressentir cette peur comme si elle existait, le danger était là vraiment. Donc c'est compliqué. Quelqu'un qui est dans la peur, c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on va lui mettre en face ? Des arguments rationnels. Et là où c'est compliqué, j'arrive, là où c'est compliqué, c'est que la plupart du temps, quand vous discutez avec des gens qui rentrent dans l'émotion, il y a deux choses qui ne fonctionnent pas, c'est l'émotion et le rationnel. C'est-à-dire que vous allez avoir un discours de sourd. Vous pouvez discuter pendant une demi-heure, pendant trois quarts d'heure. Si vous voyez ce qu'elle ne voit pas, elle est dans l'émotion, elle est juste trop, elle est trop partie dans l'émotion. Et vous la ramenez, vous essayez de la ramener à la raison. Eh bien, vous n'allez pas réussir parce que l'émotion et la rationalité, ça ne fonctionne pas ensemble. Et la personne va vous dire... Mais tu comprends pas, mais tu comprends rien, ça sert à rien, je discute avec toi, tu comprends pas ce que je vis. Et c'est très compliqué. Tu disais ?
Juste, j'avais lu dans un livre, peur, c'est une perception erronée d'une réalité.
Ouais.
Je trouvais ça sympa parce que.
Ouais, c'est ça, c'est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire que pour toi, tu es persuadé, c'est ton interprétation, Et qu'en réalité, quand tu discutes avec la personne, ben, tu vois bien que la peur n'est pas fondée. Mais c'est compliqué, parce qu'elle, elle est persuadée qu'elle a raison. Cette irrationalité de nos peurs doit être confrontée à notre foi. Dieu emploie dans la Bible, c'est un peu étonnant, 365 fois l'expression « ne crois, ne crains pas ». C'est-à-dire, un pour chaque jour. Hein? Un pour chaque jour, ne crains pas. Voilà. En réalité, il ne faut pas oublier notre nature. Nous sommes des brebis. Et la caractéristique d'une brebis, c'est qu'elle a peur. Et qu'elle a besoin de son berger. Oui. Eh bien, nous, cette émotion-là, elle a été gravée en nous dès que le péché est arrivé sur cette terre. En réalité, si vous reprenez les Écritures et que vous voyez, vous regardez à quel moment le péché est entré dans la vie d'Adam et de Ève, juste après, regardez les versets et vous allez voir trois émotions qui n'apparaissaient pas avant. Alors, elle apparaît une fois, mais pour dire qu'elle n'existe pas. Adam et Ève n'avaient point honte. Ils étaient nus, ils n'avaient point honte. Elle n'était pas là, la honte. Donc, on signale l'émotion, mais elle n'est pas là, l'émotion. Mais par contre, dès qu'il y a la chute, dès que le péché est entré dans le monde, tout de suite après, vous voyez Adam et Ève qui ont peur, vous voyez Adam et Ève qui culpabilisent, et vous voyez Adam et Ève qui ont honte. Les trois vilaines sœurs arrivent dès l'apparition du péché. Et ça n'a pas quitté l'être humain. L'être humain, il naît sur cette terre avec les trois vilaines sœurs. Un beau cadeau. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'on a, en tant que croyant, on a un combat à mener entre ce que nous dit l'Écriture et ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Il y a vraiment une croissance dans la foi pour que la foi remporte le combat sur la peur. Hein? Parce que dans Philippiens 4:6, c'est encore plus précis. Dans Philippiens 4:6, c'est « ne vous inquiétez de rien ». Et on pourrait additionner tous les versets comme ça, il y en a 365. Hein? « Ne vous inquiétez de rien ». C'est clair, c'est net. Et pourtant, on s'inquiète tous. Mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et qu'est-ce qu'on va avoir en récompense ? Ben, la paix. La paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Voilà. Mais c'est une prise de conscience. Encore une fois, c'est un narratif. Pourquoi tu as peur ? Il faut revoir le narratif. Pourquoi tu as peur ? Si Dieu est ton papa, qu'il prend soin de toi, que tu crois qu'il prend soin de toi parce qu'il t'aime et qu'il est tout puissant, qu'il a tout pouvoir, alors donne-moi une explication pourquoi tu as peur.
On nous a transmis aussi.
Oui.
Il y a plein de choses de peur qu'on nous a transmises.
Oui, mais c'est un travail qu'on doit se faire, c'est-à-dire, en fait, il faut se poser parce que tout le monde a peur. Tu vois, c'est ça. Mais il faut se poser et pour dire, mais pourquoi j'ai peur ? En fait, je te le dis autrement. Est-ce que ma peur que j'ai là, actuellement, là, est-ce qu'elle est rationnelle ou irrationnelle ?
Oui, mais pourtant, quand on a peur, on ne pense pas à ça, on a juste peur.
Oui, mais...
Tu peux donner à Dieu, mais quand tu as peur, on n'est pas raisonnable. Tu ne peux pas me raisonner quand j'ai peur. Les gens qui ont peur d'un chien...
Oui, mais combien de temps tu vas pas être raisonnable ? Pendant combien de temps tu vas pas être raisonnable ?
Non, mais justement, Dieu guérit ça.
Non, c'est pas ça que je veux te dire. Oui, Dieu va guérir, mais moi, par exemple, je prends mon cas. Si j'ai peur, c'est une fraction de seconde. Je n'ai pas peur pendant toute la journée. J'ai peur une fraction de seconde. Et ma peur ne va pas dominer sur moi. Hein ? Oui, mais moi, je parle pour moi, je ne suis pas dans votre peau. Mais moi, je peux te dire, quand j'ai peur, eh ben, je l'analyse, ma peur. Je dis, attends, j'ai peur. Mais pourquoi j'ai peur ? Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai peur de manquer. Ah, j'ai peur. En fait, j'analyse pourquoi j'ai peur. Mais je suis en contradiction avec les Écritures. Ah oui, ne vous inquiétez de rien. Dieu pourvoit mes besoins. Donc, j'ai peur. J'analyse pourquoi j'ai peur. Ah, J'ai peur de manquer. Ok. Mais que me dit l'Écriture ? J'ai pas peur de manquer. Il est mon berger, il pourvoit tous mes besoins. Non, mais c'est important. Parce que sinon, ça veut dire que tu te laisses dominer par la peur et que la peur prend le dessus sur toi. Ah ben, c'est la façon biblique, hein. Après, je pense que tu as raison dans le sens que c'est subjectif par rapport à où est-ce que tu en es dans la foi. Et là, il n'y a pas de jugement. Hein. Ce n'est pas un jugement, mais c'est une question de dire la foi, elle vient au-dessus de la peur. Ouais, justement, la foi, ce n'est pas l'intellect. Hein. La foi, c'est j'ai confiance en Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Et ça prend le dessus sur le fait que, oui, je suis en train de m'inquiéter. Mais en réalité, je n'ai pas à m'inquiéter en réalité. C'est la foi.
Mais en France, c'est peut-être pas un raisonnement de l'humain quand il est philosophe qui dit que tous on est névrosés, mais à une certaine limite, en que nous, maintenant chrétiens, bah, il faut mettre la parole.
Le point, c'est de faire un stop. Alors, est-ce qu'on est capable de faire le stop ou pas ? Parce que l'émotion, on le verra pour les autres aussi, c'est une puissance. Tu vois, l'émotion, c'est une puissance. C'est-à-dire que dès qu'elle naît en toi, ça devient puissant. C'est une puissance. Et donc, cette puissance-là, est-ce que, au fil et à mesure que tu guéris, au fil et à mesure que tu grandis dans la foi, tu es capable de la voir arriver, de la sentir, et de la... j'appelle ça checker. Tu vois, souvent, ce que je donne comme exemple, c'est le chien, tu sais, que tu as avec une laisse. Mais le chien, il est beaucoup plus fort que toi. Et donc, le chien, là, tout d'un coup, il a vu un autre chien et il part en courant. Il part en courant. Et toi, tu as deux solutions. C'est ou tu cours après le chien, tu vois, ou tu checkes. Tu checkes le chien, c'est-à-dire tu fais hey, viens ici, toi. Tu vois, et c'est un petit peu ça, l'émotion. L'émotion, mais c'est une question d'entraînement, de tout ce que tu veux. L'émotion, c'est pas de lui donner vie. Tu vois, si tu donnes vie à l'émotion, eh ben, t'es foutu. Hein. Elle va t'embarquer. Hein. Et t'auras plus le contrôle. Hein. Parce que.
Hein? Dans la vie courante, souvent, en ce moment, on croit que l'être humain n'est qu'émotion.
Ouais.
Ouais. C'est de
l'émotion. Ouais, je suis d'accord avec toi. On est des êtres d'émotion. Mais il y a des émotions toxiques, comme celles qu'on en discute. Enfin, là, on voit le côté toxique, hein, parce que je pourrais te dire, la peur aussi, elle a des bons côtés. Hein. S'il y a le feu quelque part et que tu as peur, tu as raison d'avoir peur. Hein. Donc là, je parle des émotions toxiques. Eh bien, l'émotion toxique, si tu veux... Tu as cette possibilité de la checker dès le départ. À condition que tu te poses la bonne question, que tu ne te laisses pas entraîner. Par exemple, j'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer. Et là, au lieu de mettre ma foi dans le Seigneur, qu'est-ce que je dis dans ma tête ? Mon narratif, c'est « Oh, eh oui, parce que... Non, mais si, il se passe ça. Et puis si ça arrive. Waouh ! Et puis ça... » Tu vois, je me fais entraîner. Et là, j'ai plus... aucune chance de contrôler le truc, je vais finir mal, tu vois. Mais en réalité, il faut se poser la question, pourquoi j'ai peur et est-ce que ma peur est réelle, elle est fondée, tu vois. Et c'est ça de checker l'émotion. Ça va ? Maintenant, on passe à la culpabilité. Peu d'émotions sont aussi pénibles et dévastatrices à éprouver. Le sentiment de culpabilité agit comme un bourreau torturant lentement sa victime jusque celle-ci sombre, paralysée, dans le désespoir, et ça peut même aller jusqu'à la dépression. Tu vois, cette culpabilité que l'ennemi essaye de mettre sur toi, elle est là pour te torturer petit à petit, à petit feu, pour dire c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Tu n'es pas une bonne personne, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à pas être comme ça, tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Enfin bref. Tout pour t'amener à sombrer. Alors, les sources de la culpabilité, ils sont déjà dans le péché. Hein. Dès la désobéissance, on est coupable. Après, tu peux avoir reçu une éducation rigide, des parents toujours insatisfaits qui nous entraînent dans une recherche d'une perfection illusoire. Donc, tu te sens toujours coupable, parce que c'est jamais bien, c'est jamais comme il faut. Une mauvaise conception de Dieu, un père fouettard. Tu vois, ça, c'est, ça vient de la religion. C'est-à-dire qu'il faut plaire à Dieu avec des... Faut faire. C'est le verbe faire. C'est pas le verbe être, mais c'est le verbe faire. Il faut faire. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des pèlerinages. Il faut faire des... faut que je me fouette éventuellement. Il faut, je sais pas, il faut que je fasse plein de trucs pour que, calmer Dieu, parce que sinon, il va me tomber dessus. Tu vois. Et ça, c'est la religion. Le diable aussi. Ne pas oublier que le diable, dans la Bible, il est marqué qu'il est l'accusateur des frères. Il se plaît à ressortir les anciens dossiers. Donc on a aussi on a aussi l'ennemi qui essaye de toujours de nous ramener à une culpabilité. Toujours se sentir coupable, de ne pas avoir bien fait les choses, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Voilà, c'est toujours pour être mal. Et enfin, dans les sources de la culpabilité, il y a le jugement et le légalisme. Des gens qui sont plutôt dans le légalisme vont jamais être satisfaits et vont toujours se sentir coupables. Et on l'a vu, on l'a chanté tout à l'heure, la réalité, si maintenant on voit ça à travers le prisme des Écritures, donc on refait le narratif, eh ben non, c'est faux tout ça. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, est-ce que c'est ce qu'on a reçu ? On a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Eh bien, elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand je me sens coupable, il faut que je le mette à la lumière. Pourquoi je me sens coupable ? Est-ce que c'est justifié ? Et à la croix, Jésus a pris ma culpabilité. Parce que, en réalité, avant de connaître le Seigneur, eh bien, nous étions dans l'ignorance, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset. Nous étions dans l'ignorance. Donc, on faisait des choses, mais on n'avait pas conscience que c'était mal. Ou, des fois, on le voyait, mais c'était plus fort que nous. Donc, ça, c'était avant. C'est pour ça que j'ai mis en premier le verset. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Maintenant, c'est fini tout ça. Parce que maintenant, je suis dans une nouvelle vie. Maintenant, je suis avec le Seigneur. Donc, j'ai pu à me sentir coupable de ce qui s'est passé avant. Donc, nous, on fait l'inventaire. Et c'est sûr que dans l'étape 7, on va regarder s'il y a des réparations à faire parce que peut-être que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Et c'est ça, le nettoyage. Hein, peut-être que je vais aller demander pardon à quelqu'un ou je vais voir si je dois réparer des choses parce que maintenant, je suis dans une nouvelle vie, mais je veux que mon ancienne vie, elle n'a plus aucun impact sur ma nouvelle vie. Donc, s'il faut nettoyer, eh ben on nettoie. Parce qu'on veut être libre. On veut pouvoir croiser n'importe qui dans la rue et pas changer de trottoir. On veut pouvoir rentrer dans l'église et pas changer de rang parce qu'il y a une sœur qui est là et puis qu'on ne va pas lui dire bonjour. On veut être libre. Libre. Donc, on ne veut plus être prisonnier de blessures, de choses qui se sont accumulées, des choses qu'on entretient. Non, on veut vraiment être libre. Alors, pour ça, on met à jour tout ça. On fait l'inventaire. Et on met à jour tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux rentrer pleinement dans cette vie où il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a pas de raison que mon passé vienne encore semer la zizanie dans mon présent et pour des choses à venir. OK ? Et on finit par la honte. Alors, vous allez voir, on va passer un petit peu plus de temps sur la honte parce que la honte, l'émotion de la honte a une particularité. C'est qu'on ne la voit pas, mais elle détermine notre identité. Donc, elle est plus vicieuse. Parce qu'elle est là, mais on ne la voit pas. Et pourtant, elle détermine notre identité. Et c'est une émotion qui entrave profondément notre transformation. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens sont dans la honte et ils ne le savent pas. La honte, c'est une émotion profondément ancrée en nous qui signifie à la personne qu'elle n'est fondamentalement pas une bonne personne, qu'elle est indigne et qu'elle ne sera sans doute jamais à la hauteur. Vous voyez la puissance de l'émotion ? Vous voyez ce que ça fait ressentir en nous ? Un mal-être intérieur. Un mal-être intérieur où on va toujours essayer de cacher ce qu'on est. Parce que ce qu'on est, vous voyez, c'est que ben, on n'est pas une bonne personne, on est indigne et on ne sera jamais à la hauteur. Mais ça, c'est caché. C'est le mal-être qui est au fond de nous. Et donc, on va toujours se battre pour montrer aux autres que si, on est une bonne personne, si, je suis à la hauteur, si, si. Mais c'est un masque. En réalité, au fond de nous, on n'est pas guéri de la honte. Et au fond de nous, on a même peur d'être découvert. Donc, on fonctionne un peu en cachant les choses en nous qui viennent nous mettre en difficulté dans notre identité. Ça va, ça? Vous allez voir, on va aller plus profondément là-dedans. Donc, c'est aussi le syndrome que j'appelle du vilain petit canard. Vous voyez, dans la fratrie, par exemple, ben vous êtes le petit canard qui est à la fin, là. Vous voyez? Et j'ai mis comme ce sentiment-là de honte pour que vous compreniez bien qu'est-ce que ça peut être. La honte, c'est le sentiment que ressent une chenille lorsqu'elle se rend compte que toutes ses amies se sont changées en papillon, mais elle est restée chenille. La pauvre. Elle est malheureuse. Et ajoutez à ça, que ce que beaucoup de gens connaissent quand ils sont dans la honte, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est je me positionne. Regardez bien, en imaginant, j'imagine, c'est que dans mes pensées, en imaginant négativement ce que les gens pensent de moi. Un jugement d'incompétence, c'est pas ma place, je suis un usurpateur. Donc ça, c'est ma base. Je suis pas à ma place. Donc je commence comme ça, d'accord ? Parce que justement, mes blessures, les carences, on retrouve le modèle du départ, mes blessures plus les carences influencent mon comportement, influencent qui je suis. Et ça, c'est ce que je pense au fond de moi. Mais c'est caché. Il y a un masque, évidemment, je ne le montre pas. Mais par contre, ça devient ma réalité. C'est-à-dire que je n'ai pas une bonne estime de moi, je me dévalorise, et donc je suis en stress par rapport à ce que je fais, à ce que je montre aux autres, de peur d'être découvert. Pour ne pas être démasqué, je travaille avec toujours plus d'acharnement. C'est-à-dire que comme je ne me sens pas légitime, eh ben, je vais compenser par faire plus, toujours plus, de façon à jamais montrer aux autres que je ne crois pas que je sois à ma place. Ou toujours que j'ai l'impression de donner que je suis à ma place. Et donc, on continue. Et donc, les autres trouvent que c'est génial, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Plus je suis complimenté, plus j'ai le sentiment de ne pas mériter les honneurs et que je vais être démasqué un de ces jours. Et un de ces jours, il y en a un qui va dire, mais t'es pas à ta place, toi, finalement. Tu as trompé tout le monde. Voyez un petit peu le niveau de stress, comment on peut être en malaise quand on a ce sentiment d'un usurpateur. T'es pas à ta place. C'est pas pour toi, ça. Et donc, ça tourne en nous, hein, et la honte est le moteur de l'usurpateur. La honte a une particularité, elle se cache au fond de nous, au fin fond de notre âme, camouflée et invisible. Elle est difficile à discerner. C'est pourquoi beaucoup de gens restent remplis de honte toute leur vie sans le savoir. Des fois pour illustrer la honte, on dit la honte c'est comme une éponge. Quand tu vois une éponge, tu ne peux pas savoir s'il y a de l'eau dedans ou pas tant que tu n'as pas pressé. Et quand tu presses, tu sais s'il y a de l'eau ou pas. Mais sinon, une éponge, c'est une éponge. Avec de l'eau ou sans eau, tu ne sais pas. Eh bien, la honte, c'est comme ça. On la voit pas. La honte est collée à nous. Elle fait partie de nous. Elle participe grandement à la construction de notre identité. C'est pour ça qu'elle est difficile à démasquer. Parce qu'elle nous a suivis depuis qu'on est petit. Et elle nous colle à la peau. C'est comme une seconde peau. Donc, on est habitué à vivre avec. Et donc, elle fait partie de nous. Elle fait partie de notre identité. Elle est liée à l'image et à l'estime de soi et à la perception de ce que nous sommes. Donc, beaucoup de gens dans la vie ont un masque. Ils ont le masque devant les autres pour montrer qu'ils sont une bonne personne, qu'ils sont à la hauteur. Ils ont un masque. Et à l'intérieur, C'est tout fragile. À l'intérieur, ils ne se sentent pas à la hauteur. Ils ne se sentent pas une bonne personne. Ils ont le syndrome de l'usurpateur. Ils ont le syndrome du vilain petit canard. Donc, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut vivre que dans le malaise. On n'a pas fait la paix avec qui nous sommes. Autre particularité, la honte procède de la comparaison. Nous jaugeons qui nous sommes à la lumière de la perception que nous avons des autres. On est toujours dans un mode de comparaison. Toujours en train de se comparer aux autres et d'essayer d'être meilleur que les autres. Et là, vous allez voir beaucoup de gens, vous allez les écouter, et ils sont toujours en train de critiquer les autres parce qu'en critiquant les autres, ils se sentent supérieurs à l'autre. Donc, c'est encore une manière de cacher qui ils sont. Si tu es sûr de toi, si tu es sécure avec toi-même et tu as confiance dans ce que tu fais, que c'est Dieu qui t'a donné ces talents-là, que ta place, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais tu n'as pas besoin de critiquer les autres. Tu n'as pas besoin de te comparer avec les autres. On est tous uniques. On a tous notre place. Donc, tu n'as pas besoin de critiquer l'autre pour te sentir à ta place. Nous parlons de honte toxique parce que son effet est justement d'intoxiquer l'esprit, tout comme une substance intoxique l'organisme. La honte toxique est à la base de beaucoup de dépendances affectives, chimiques, sexuelles, la codépendance, le jeu, les troubles de la personnalité. Beaucoup du comportement des gens viennent d'une honte toxique. La honte de la famille dans laquelle je suis né, la honte de la manière dont on m'a traité, la honte dans la manière dont on s'est occupé de moi. Tout ça, ça participe à l'éducation de ta construction. Elle est à l'origine de plusieurs abus, violence conjugale, abus physique, abus sexuel. Enfin, elle est au cœur de la dépression et nourrit le désespoir de ceux qui en souffrent. La honte est reliée au manque d'estime de soi. La honte toxique amène la personne à se considérer comme une erreur, comme moins que rien et comme la pire. Pas de place pour l'erreur, pas de place pour l'échec. Subir un échec signifie être un échec. Faire une erreur signifie être une erreur. Voyez un peu comment c'est obsessionnel tout ça. Ça aliène la personne. On devient fou ou folle. La honte toxique est l'identité. La honte toxique pollue l'identité propre de la personne parce qu'elle pense que je suis ce que je fais. Il faut que je fasse pour être. Le jugement est impitoyable. Si je fais mal, je suis l'incarnation du mal. Vous voyez ? L'identité n'est plus reliée à ce que tu es. L'identité est reliée à ce que tu fais. Il faut faire bien. Il faut que tu sois complimenté. Il faut que les gens autour de toi te disent que ce que tu as fait, c'est bien. Parce que si jamais il y en a un qui te dit que c'était mal ce que tu as fait, alors tu vas ressentir le mal-être au fond de toi. Alors que c'est juste que c'est pas grave, ça arrive. Tu as pu te louper et puis tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pas grave. Mais la personne ne pense pas comme ça. La personne, elle est persécutée par le fait que elle doit toujours faire bien. La honte toxique a une conséquence sur la colère. La honte est essentiellement une colère tournée contre soi. On ne s'accepte pas, on ne s'aime pas et on se rabaisse. Voilà ce que la honte peut faire sur une personne. Une colère qui est tournée vers soi parce qu'on n'accepte pas qui on est. On n'a pas fait la paix avec son humanité. La honte toxique, ça entraîne la colère et l'aliénation. La honte et la colère, enfouies au fond de notre âme, nous empêchent de nous pardonner. On s'en veut d'avoir subi les blessures, la honte, d'avoir subi les abus, d'avoir subi tout ce qu'on a subi sur cette terre. On s'en veut. On nous a affligés jusqu'à se sentir partiellement responsables de ce qui nous est arrivé. Là, il y a un petit mélange avec la culpabilité. La honte, la culpabilité. Les sœurs s'amusent avec nous. Hein, entre la peur d'être découvert, entre la culpabilité et entre la honte de ce qu'on t'a fait et la culpabilité parce que t'aurais pas dû être comme ça, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. C'est un peu de ta faute, tu l'as cherché. Tout ça, là, vient se mélanger en nous et ça crée le mal-être en nous. D'où provient la honte toxique ? Eh bien, déjà, il faut le savoir, parce que pas beaucoup de monde le savent, c'est qu'elle se transmet de génération en génération. Ça, la honte est dans la famille et la honte se transmet dans l'éducation, dans les comportements, de génération en génération, eh bien, la honte se transmet. Elle commence à s'empiler par couches successives dès l'âge de 15 mois environ. À 15 mois, le petit enfant peut ressentir la honte. Comme les strates d'une roche qui nous permettraient de lire notre histoire. Ça va être des couches de honte successives qui s'empilent. C'est notre histoire et ça fait notre identité. D'où provient la honte toxique ? Les paroles dévalorisantes émises par l'entourage de l'enfant, des parents, les frères et sœurs, les personnes en autorité, vont l'amener à se ressentir différent des autres et surtout moins bien que les autres. Ça commence comme ça. Ça commence par ce qu'on va dire de toi. Toutes les paroles dévalorisantes que tu as pu recevoir va faire que tu te sens différent des autres. Et ça, ça va créer, enfin, ça va empiler la honte sur toi. Voici quelques exemples de paroles dévastatrices. Tu es vraiment un bon à rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir quelqu'un comme toi ? Mais tu as le diable dans la peau, c'est pas possible. Ce n'est pas un cerveau que tu as, c'est une passoire. Mais pourtant là, c'est pas compliqué de comprendre ça. Ah, je sais plus quoi faire avec toi. Allez, j'en ai marre, dégage de là. Ah, tu as eu 14 à ton contrôle. Mais si tu avais travaillé plus, tu aurais pu avoir au moins 18. Tu es feignant. Et enfin, j'ai gardé la dernière, espèce de bâtarde. Vous voyez, toutes ces phrases que les gens disent par habitude, qu'on entend dans les familles, mais tout ça, ça vient impacter la construction de l'enfant. Puis les blessures de la vie vont venir augmenter les différentes couches de honte avec la famille élargie, avec l'école. À l'école, c'est pas tendre. De plus en plus, nous, on le voit à travers le harcèlement, la bande de copains, où on subit les moqueries, on subit des discriminations. Ces différentes blessures, rejet, abandon, humiliation, injustice et trahison, vont permettre à la honte de se nourrir de nos souffrances et constituer de nouvelles couches. Voilà comment on se construit, petit à petit, avec toutes ces blessures qui arrivent et qui font que la honte, ben, elle s'empile et elle construit notre identité. Exemple de blessure générant de la honte. Manque d'affection, manque d'attention envers l'enfant. Ne pas être traité de la même manière dans la fratrie. Servir de bouc émissaire, être harcelé. Être humilié en public. Être victime d'attouchement, d'inceste, de viol. Être victime de maltraitance et d'abus divers. Destruction de la confiance en soi, entraînant une mauvaise estime de soi, vouloir en finir avec la vie. Problème d'acceptation de soi, problème relationnel avec notre entourage, problème de susceptibilité, problème d'état dépressif, tendance à se faire abuser. Voilà un petit peu tous les comportements qui font suite aux blessures et qui vont entraîner de la honte. Problème d'addiction, comportement perfectionniste, problème narcissique, problème d'automutilation, scarification, problème dans la sphère de l'intimité, compliqué de créer de l'intimité avec l'autre. La honte t'amène dans le légalisme, tu deviens quelqu'un de très rigide. Alors maintenant, passons à des pistes pour guérir de la honte. La guérison va provenir davantage d'un processus que d'un acte instantané. C'est une reconstruction, une restauration de l'identité. En fait, il faut toucher à ton identité. Et donc là, on va avoir vraiment besoin de revoir le narratif de notre vie. Ce qui nous a définis, c'est les conséquences du péché. Nous sommes victimes du péché. Et tout ce qu'on nous a fait, c'est à travers des êtres humains qui l'ont fait parce qu'ils étaient conduits par le péché. C'est ce nouveau narratif de ta vie qui va commencer à changer les choses. Et c'est ton identité, tu es une nouvelle créature, c'est ton identité en Christ qui va pouvoir te considérer autrement que jusqu'à maintenant. Le travail va te permettre de passer d'un statut de victime à un statut d'acteur de ta vie, en changeant tes conceptions et en acceptant ta nouvelle identité en Christ. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans ce monde et tu étais victime du péché et les gens que tu côtoyais, tes proches, étaient eux aussi victimes du péché. Maintenant, tu appartiens à Christ. Et maintenant, tu n'as plus ce poids du péché en toi. Et donc, maintenant, ton fondement, maintenant, il est sur Christ. Et ce qui est important maintenant, ce n'est plus ce que les êtres humains ont pu dire sur toi ou disent encore sur toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit sur toi. Et là, c'est une question de foi. Tu as le choix. Soit tu subis encore ta vie et tu mets trop d'importance à ce que les gens pensent de toi ou disent sur toi, ou alors tu lâches prise et tu dis « Ok, j'ai compris l'histoire du péché, l'histoire que les gens ils disent du mal et ils ne devraient pas. » Enfin bref, tout ce que les conséquences du péché a fait, eh bien, ok, je lâche prise et maintenant je me concentre sur la vérité. Amen. Qui je suis en Christ. Et j'abandonne le reste. Parce que l'ennemi voudra toujours te ramener dans ton ancienne identité. Il voudra toujours t'amener dans la honte. Il voudra toujours t'emmener dans la culpabilité. Et c'est un combat de foi. Qui je suis maintenant? Paul dira, par la grâce de Dieu, je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut dire ce soir, par la grâce de Dieu, je sais qui je suis. Et tu es quelqu'un qui est accepté de manière inconditionnelle. Ce n'est pas ce que le péché a produit en toi qui détermine ton identité. Ce que l'ennemi a toujours voulu te faire croire, que tu es ce que tu as fait, que tu es ce que le péché a fait en toi. Non, moi, je suis aimé de Dieu d'une manière inconditionnelle. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et c'est ça la vraie guérison. La vraie guérison, c'est de laisser l'amour de Dieu pénétrer en toi afin qu'il aille au plus profond de toi et qu'il aille remplacer la honte par sa grâce. La clé, elle est là, de se laisser aimer par Dieu. Parce qu'avant, on avait l'impression de ne pas être aimable. On avait l'impression qu'il fallait mériter cet amour auprès des êtres humains. Mais ça, c'était les mensonges de l'ennemi. Ça, c'était avant d'être éclairé par le Seigneur. Mais maintenant que nous sommes éclairés par Dieu, maintenant je lâche prise de tout ça. C'est là où je fais l'inventaire parce que je vais relâcher tout ça. C'est fini, c'est mon ancienne vie. Et j'en veux pas aux gens qui ont fait tout ça avec moi parce qu'ils sont dans l'obscurité. Ils sont dans les ténèbres. Mais moi j'ai été éclairé. Merci Seigneur. Donc, je redonne tous ces gens-là au Seigneur. Le Seigneur a dit à moi la justice, à moi la rétribution. Le Seigneur connaît toutes choses. Je redonne tous ces gens-là au Seigneur. Parce que je veux nettoyer mon cœur et je veux garder mon cœur pur. Je ne veux plus être dans la vengeance. Je ne veux plus être dans l'offense. Je ne veux plus être dans ces blessures-là. Je vais demander au Seigneur de me guérir de tout ça. Et moi, je veux avoir mes yeux fixés sur Christ. Et connaître mon identité et vivre mon identité. Et en Christ, tu es accepté de manière inconditionnelle. Ta valeur, elle a été donnée par Christ à la croix. Christ est mort pour toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Et tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et c'est important de le savoir. Si les êtres humains t'ont rejeté, Dieu t'accepte. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que sur cette terre, on va juste passer un instant. Mais notre éternité, elle est avec Dieu. Amen. Et on va avoir cet amour. Il commence maintenant. On l'accepte maintenant. Par la foi, voilà ce que je suis. Par la foi, je suis aimé de Dieu. Par la foi, j'ai de la valeur. Oui, le péché avait fait des choses en moi. Oui, je me suis senti humilié. Oui, on s'est moqué de moi. Oui, il y a eu tout ça. Mais ça, je le comprends à la lumière des Écritures. Ça, c'est l'effet du péché. Mais aujourd'hui, ce n'est plus mon identité. Le péché ne détermine plus mon identité. La honte ne détermine plus mon identité. Maintenant, c'est Christ qui détermine mon identité. Et je suis aimé, j'ai de la valeur et je suis accepté comme je suis. Amen. Amen. Je suis accepté en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu. Et maintenant, pour plaire à Dieu, eh ben les effets du péché qui sont en moi, que je vois et que Dieu me révèle, ben je les apporte au trône de la grâce. Et je dis, Seigneur, ça j'en veux plus. J'en veux plus. Petit à petit, les choses sont en train de changer. Les choses anciennes s'en vont et tu deviens cette nouvelle créature. Alléluia! Vous réalisez le privilège que nous avons? Comment ne pas être heureux? Comment ne pas avoir la joie? Comment ne pas avoir la patate? Je ne sais pas si vous réalisez, mais par rapport à tous ces êtres humains autour de nous qui sont beaucoup plus nombreux que nous, mais qui ne connaissent pas la vérité, qui sont dans les mains du diable, qui sont prisonniers de tout ce qu'on voit ce soir, qui sont prisonniers du péché. Arrêtons de leur en vouloir. Arrêtons de nous bagarrer avec eux. Arrêtons de leur...
Aimons-les.
Aimons-les. Amen. T'as raison, voilà. Mais oui, aimons-les, les pauvres. Aimons-les. Bon, quand c'est trop toxique, on fait attention quand même. Hein. Mais aimons-les, les pauvres. Et en plus de ça, ils veulent pas. Ils veulent pas accepter la vérité. Refuser les mensonges du diable. Comment tu vas détecter la honte? Maintenant, là, tu vas faire dans ton inventaire, tu vas regarder où tu t'es fait piéger et où tu te fais piéger encore. Parce que regarde, quand tu te sens comme le pire être sur la terre, tu es dans la honte. Ok? Démasque-la. Quand tu te sens comme moins que rien, tu es dans la honte. C'est un mensonge de l'ennemi, c'est pas vrai. Quand tu te sens différent des autres, oui? Tu es différent parce que tu es unique, mais tu n'es pas le vilain petit canard. Quand tu as le goût de disparaître, l'ennemi est à l'œuvre. Fais gaffe, il essaye de te piéger. Quand tu te sens rabaissé, encore une émotion de l'ennemi, tu n'as pas à te sentir rabaissé parce que tu es l'être choisi de Dieu. Tu es son enfant. Quand tu ne te sens pas digne d'être aimé, tu es dans la honte. Ça ne t'appartient plus, ce n'est plus ton identité. Quand tu te compares et que tu te dévalues, c'est fini. Ça fait partie de l'ancienne personne que tu étais. Mais c'est fini. Tu n'as plus à te comparer. Tu n'as plus à te sentir dévalué. Tu es très bien comme tu es. Tu es unique. Amen. Quand tu te sens rejeté, sans raison apparente, c'est un sentiment que l'ennemi essaye de mettre dans ton cœur. L'ennemi te maintient dans la honte. Donc il y a un combat dans la restauration, dans l'inventaire. Il y a un combat. Mettre à jour tous ces sentiments-là, c'est des mensonges de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque nous prenons conscience de notre honte, il faut maintenant la ramener à ce qu'elle est. C'est juste une émotion. Ce n'est pas la réalité. C'est juste parce que depuis des années, l'ennemi nous a inculqué ça dans notre tête et on a fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ça fait partie des mensonges de l'ennemi. Et on n'a plus à marcher dans sa combine. Maintenant, c'est une émotion, c'est pas la réalité. Tu es victime d'un narratif qui vient du monde des ténèbres, des mensonges de l'ennemi et qui veut ta perte. Il est impératif que tu amènes la lumière et la vérité sur ta vie. Qui tu es vraiment? À chaque fois que l'ennemi viendra et qu'il essaiera de te faire sentir cette émotion de honte, tu diras, c'est faux, hors de moi Satan, voilà ce que je suis. Et tu le proclames là. Tu vas proclamer ça, tu vas verbaliser à haute voix. Et tu vas dire, non, je suis un enfant du Seigneur, je suis choisi par le Seigneur, j'ai de la valeur, je suis aimé par Dieu. Il m'aime de manière inconditionnelle. Je n'ai pas besoin de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes pour être aimé. Comme je suis, Dieu m'aime. Alléluia. C'est une grâce, frères et sœurs. Tels que nous sommes, Dieu nous aime. Tu peux quitter le burn-out. Tu n'as plus besoin d'en faire des tonnes pour plaire. Tu n'as plus besoin d'en faire des tonnes pour satisfaire le masque devant les autres. Sois tel que tu es. Sois toi-même et aime-toi. Tu es une belle personne. Le Seigneur t'a choisi. Ce n'est pas les autres qui déterminent qui tu es. Ce n'est pas les effets du péché qui déterminent qui tu es. Ce n'est pas la honte qui détermine qui tu es. C'est juste le Seigneur. Lui seul a des droits sur toi. L'ennemi n'a plus de droits sur toi. Christ nous a rachetés à la croix. Il n'y a plus de droits. Il a perdu ses droits. Mais Christ, c'est lui qui a les droits sur nous. C'est lui qui nous dit qui nous sommes. Et nous, dans la foi, nous croyons. Ce ne sont pas des faits, mais quelque chose que l'on ressent, cette honte-là. Et ressentir ne veut pas dire consentir. Ce n'est pas parce que tu le ressens que c'est vrai. Et au contraire, c'est un sentiment qui fait partie de ton histoire et que maintenant tu nettoies et que tu dis « je ne veux plus ressentir ça ». Et tu prends position. Tu prends position et tu dis « Seigneur, je ne veux plus ressentir ça parce que ça appartient au passé. Maintenant, voilà ce que je suis. » Et quand tu as les qualités que Dieu te donne, tu ne peux pas être honteux. C'est impossible. Tu ne peux pas être dans la honte quand tu prends l'autorité et quand tu prends l'identité que tu as en Christ. Donc tu prends position et tu dis, ça c'est fini pour moi. Il est nécessaire d'amener à la lumière ce que tu ressens, ce que tu crois, pour le confronter à la parole de Dieu, à la vérité. Il est nécessaire de mettre ces mensonges à la lumière en le partageant avec quelqu'un de confiance. On arrive à la fin, on commence à regarder à la cinquième étape. Okay. J'en ai déjà parlé. Ça sera important pour être efficace, pour aller encore plus loin, que tu puisses parler à quelqu'un de confiance, et j'ai bien dit de confiance, qui saura garder ça pour lui, juste partager pour que tu puisses verbaliser tout ça. Et quand tu verbalises tout ça avec un être humain, ça prend une autre dimension. Ce n'est pas que toi, avec tes mélanges d'émotions, de narratifs, où tu ne vois pas tout clair là-dedans, parce qu'il y a un mélange d'émotions. Non, là, tu parles à un autre être humain qui ne vit pas tes émotions et qui va pouvoir regarder avec toi, accepter qui tu es, ne pas te juger. Et là, c'est le travail de la guérison qui commence. Il est nécessaire de mettre ces mensonges à la lumière en le partageant avec quelqu'un de confiance. Le fait de pouvoir le dire à un autre être humain sans se sentir jugé ou rejeté constitue le prélude à la guérison. David dira, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Et Jacques dira ceci, « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » Confessez, dites-le à haute voix. Cet acte, ça s'apparente à une confession. Mais la confession, c'est une arme divine puissante. C'est incroyable, le pouvoir de la confession. Le pouvoir de confesser à quelqu'un le péché qu'on a subi, les affres du péché qu'on a subi, de pouvoir le partager et que cette personne-là soit dans la compassion et dans la miséricorde pour toi. Parce qu'elle aussi, elle comprend ce que c'est. Et il n'y a pas de jugement. Bien sûr, il faut le faire avec un chrétien. Il faut le faire avec quelqu'un qui comprend ce que je dis là. Parce que sinon, il ne va rien comprendre. Hein? Faut pas le faire avec un légaliste. Parce que tu vas te faire assassiner. Faut le faire avec quelqu'un qui est déjà dans la compassion, qui est déjà dans la miséricorde. Hein, qui peut entendre ça. Parce qu'il sait que tu n'es pas déterminé par ton péché. Il sait que le péché, ce n'est pas ton identité. Tu es juste victime du péché. Et que tu veux t'en débarrasser. Lorsque les sources sont clairement identifiées, que nous avons mis le doigt sur les causes de notre honte, mais aussi sur ceux qui ont été à l'origine de toute cette honte, et que l'on change notre narratif, on voit tout ce soir, tout le narratif qu'on met en place, alors le temps du processus du pardon peut prendre place. C'est un processus. En fonction de la gravité des blessures, le pardon va rentrer dans un processus. Un processus d'acceptation de tout ce qu'on a dit ce soir et de demander à Dieu de t'aider à pardonner. Le pardon est divin. Le pardon vient de Dieu. Toi, c'est juste accepter la réalité de ce monde, accepter le narratif des Écritures. Pour se libérer de notre passé et retrouver notre liberté. L'antidote de la honte, c'est la grâce. Si l'amour est l'antidote de la peur, la grâce de Dieu est l'antidote de la honte. La grâce et le pardon, la miséricorde, sont intimement liés et participent à la guérison. La grâce et le pardon. La grâce procure la guérison parce que, par définition, la grâce offre aux gens remplis de honte ce qu'ils désirent le plus, être acceptés sans condition. On est tous pécheurs. Okay ? On a tous été touchés différemment. On a tous subi des choses différentes. Mais on est tous des victimes du péché. Et ça, la compassion et la miséricorde pour les uns, pour les autres. On n'a pas à donner un coup de main au diable. Il nous fait assez de mal comme ça. Il nous culpabilise assez comme ça. On n'a pas besoin d'en rajouter. Non. On est plus à être appelé à être dans la compassion et être dans la miséricorde pour les frères et sœurs et pour nous-mêmes. La grâce, c'est un don. C'est un cadeau totalement gratuit. C'est le don d'être accepté avant d'être acceptable. C'est recevoir le pardon gratuit de Dieu. C'est recevoir l'amour inconditionnel dans notre cœur. C'est écrire la suite de notre vie sur une nouvelle page blanche qui va prendre forme avec le Saint-Esprit, cette puissance qui agit en toi. On est vraiment dans cette nouvelle créature. On est vraiment en train d'abandonner cette ancienne créature et on est vraiment en train de rentrer dans le processus de cette nouvelle créature qui maintenant nettoie son passé, maintenant regarde à l'avenir en disant « Seigneur, maintenant j'écris ma page avec toi. » Alléluia. Débarrasser du péché, débarrasser des conséquences du péché, débarrasser de la honte, de la culpabilité, de la peur, débarrasser de tout ça. On nettoie la maison. Plus de squelettes dans le placard. On a tout foutu dehors. Il y a eu un grand cyclone, il y a nettoyé. Si la honte nous détruit, la grâce nous reconstruit. Si la honte nous a volé notre enfance, la grâce nous redonne le goût de vivre. Si la honte nous a déformés, la grâce nous reforme à l'image de Jésus-Christ. Amen. La honte nous a rendus indignes, la grâce de Dieu nous rend notre dignité et notre valeur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Guérir de la honte en acceptant sa grâce vous permettra de surmonter la mauvaise estime de vous et de retrouver une juste confiance en vous, de faire la paix avec vous-même, de vous aimer et d'aimer les autres de l'amour de Dieu. Conclusion, à l'étape 1, après maintes et maintes luttes, nous avons reconnu notre incapacité face à ce que nous vivions. À l'étape 2, en réaction à notre incapacité, nous avons réalisé que Dieu existait et qu'il voulait nous aider. Nous lui avons confié notre vie. À l'étape 3 et 4, nous continuons l'inventaire de notre vie en la confrontant à la vérité et la compréhension des Écritures, en vue de faire le grand ménage, un grand nettoyage qui nous permettra de ne plus traîner notre passé comme un boulet, mais de vivre pleinement dans cette nouvelle vie que nous offre Jésus. Amen. Il nous faut faire face à notre réalité en approfondissant la connaissance de qui nous sommes, d'identifier nos conduites qui nous mènent toujours plus vers le chemin de la destruction, faire preuve d'humilité et prendre nos responsabilités. On continue l'inventaire, on fait l'introspection et on examine. Amen. Amen, amen, amen. Voilà le beau programme qui nous attend. Et on avance. Et le travail se fait petit à petit. Le Seigneur travaille avec nous. Amen. Et on commence à y voir clair. On commence à voir un petit peu notre vie, comment elle s'est organisée. On commence à regarder à ce qu'il va falloir mettre de côté, nettoyer. Les choses anciennes sont en train de passer et les choses nouvelles arrivent. Et l'espoir est devant, le désespoir est en arrière. Amen. On peut rendre grâce à Dieu ?